C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là dans cette foire du redémarrage. Songez qu'il y a quelques semaines encore, on se demandait si on allait pouvoir la faire ou pas. Et on s'est dit que, tout en prenant des précautions peut-être, parce que le plus important c'est quand même le sanitaire, on allait la faire. Voilà. Et dans cette logique-là, dans le cycle temps présent que j'ai voulu mettre en place il y a 3 ans pour que cette foire de livres de Brive soit non seulement une foire littéraire mais aussi qu'il fasse une place aux sciences humaines parce que chacun prêche pour sa paroisse et étant prof d'histoire, je trouvais que c'était bien que les sciences humaines aient une place. On a lancé cette idée de réfléchir non pas à la pandémie, puisque on a tous entendu des heures et des heures. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de conférence sur la santé, puisque tout le monde en a parlé. On s'est dit que ça serait peut-être pertinent de se demander ce que seront, pour reprendre le mot de Peggy, les demain et les après-demain. Voilà. En plus, Peggy à Brive, avec Edmond Michelet, un supporter et un disciple. Et on s'est dit, il faudrait lancer cette conférence, ce cycle, par un peu d'histoire, quoi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai invité Laurent Wirth, que vous connaissez, qu'on ne présente pas, qui est un historien connu, reconnu, même si dans sa modestie, il ne le reconnaît pas, qui s'est mis au travail. L'idée, c'est de se demander qu'est-ce que, dans l'histoire, qu'est-ce qu'on a pu tirer comme enseignement et comment dans l'histoire les hommes ont réagi, se sont relancés presque, après les pandémies. Donc on va avoir un cours brillant sur cette question et qui va nous apporter des enseignements parce que ce qui s'est passé avant finalement, les masques, tout ça, on s'est aperçu qu'on n'a rien inventé, quoi. Voilà. Donc, merci, Laurent, d'avoir répondu, comme toujours, spontanément. Moi, je suis très heureux et très fier de vous avoir à cette foire du livre. Et je vous laisse la parole. Je vais écouter le plus longtemps possible, mais j'ai des obligations, d'autant plus que dans une heure, la ministre s'est annoncée de la culture. Et donc, nous avons dû caler recaler, notre emploi du temps. Voilà. C'est pas moi que vous êtes venu entendre, c'est Laurent. Je vous laisse la parole, Laurent, et merci d'avance.
Voilà, merci beaucoup, François, pour cette présentation. Alors, évidemment, on est encore en pleine pandémie, il paraît qu'elle est en train de rebondir. Mais il y a une phrase que, depuis le début de cette pandémie, on entend répéter en boucle, c'est « après la pandémie, rien ne sera plus comme avant ». C'est une affirmation qu'on entend assez souvent et qui me fait penser à une phrase que l'on trouve dans « La peste » de Camus, que je vous lis. « Tout le monde était d'accord pour penser que les commodités de la vie passée ne se retrouveraient pas ». Camus qui écrit ça dans La Peste en 1947. Alors, y aura-t-il un monde d'après? Que serait-il ce monde d'après? Pour tenter de répondre à cette question, je pense que l'histoire peut nous aider à réfléchir en se penchant sur la façon dont les sociétés du passé sont sorties de grandes pandémies qui ont été bien pires que celles que nous venons de traverser et dans laquelle nous sommes encore. Les historiens se sont beaucoup intéressés ces dernières années à ce qu'on appelle les sorties de guerre, mais très peu aux sorties de pandémie. Et je pense que c'est une occasion donc pour réfléchir, d'autant plus que si l'on prend la Grande Guerre et le bilan dramatique, terrible de la Grande Guerre, vous savez, 10 millions de militaires et à peu près autant de civils, 20 millions de morts, on s'aperçoit que le bilan de la grippe espagnole est beaucoup plus important puisque la grippe espagnole, on l'a estimé d'abord son nombre de victimes à 20 millions de morts dans les années 20, puis on est passé à 40 millions de morts dans les années 90. Et aujourd'hui, il y a des estimations à 50, voire 100 millions de morts dû à la grippe espagnole. Une fourchette évidemment très large qui s'explique par des incertitudes qui pèsent sur un certain nombre de données dans certains pays comme la Chine, ce qui est le cas aussi, il faut bien le dire, en ce qui concerne la pandémie actuelle. Parce que quand on entend dire que les Chinois ont eu 4000 morts du fait de la pandémie de Covid, bon, ça donne pas envie de rire parce que c'est triste. Mais on comprend donc ces incertitudes. Pourtant aussi, ces pandémies ont eu des conséquences très lourdes pour l'histoire du monde. Je prends un exemple. Il y a un historien qui s'appelle Jean-Noël Biraben, qui est un spécialiste donc, de la peste noire, qui dit que finalement la peste de Justinien, qui a ravagé tout le monde méditerranéen au VIe siècle et qui a connu des récurrences jusqu'au VIIIe siècle, marque la vraie fin du monde antique, beaucoup plus finalement que la date traditionnellement retenue de 476, hein, la chute de Rome, ou plutôt la déposition du dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, par le chef barbare Odoacre. La peste de Justinien a beaucoup plus finalement bouleversé le monde. Cette peste noire qui a ressurgi au XIVe siècle, venue des steppes de l'Asie centrale, a décimé le tiers de la population de l'Europe et a vraisemblablement été à l'origine de la chute de l'Empire Yuan en Chine et de la chute aussi de l'Empire de la Horde d'Or en Asie centrale, dans les steppes donc d'Asie centrale. Les pandémies de choléra au XIXe ont eu aussi des conséquences considérables, d'abord en impulsant des véritables politiques de santé publique et en débouchant finalement sur ce qu'on appelle la révolution pasteurienne. Quant à la grippe espagnole, elle n'a fait que renforcer cette tendance jusqu'au développement de ce qu'on appelle aujourd'hui, depuis la Seconde Guerre mondiale, le welfare state, l'État-providence. Donc il a fallu vraiment ce choc mondial provoqué par le coronavirus pour que cette préoccupation de lendemain de pandémie ressurgisse. Peut-on parler d'une résilience des sociétés ? Peut-on parler d'une récupération démographique ? Peut-on parler d'une récupération et d'une relance économique ? On en parle beaucoup actuellement avec la reprise donc, de l'économie. Quelles furent les conséquences pour les sociétés ? Quelles furent les conséquences pour les mentalités ? Pour répondre à ces trois questions, je vais prendre trois exemples. La peste noire du XIVe, le choléra au XIXe et la grippe espagnole au début du XXe siècle. La peste noire d'abord. La peste noire, je dirais que ça a été un traumatisme profond et durable. Et quand j'emploie le terme de traumatisme, c'est à dessein parce que ça touche à la culture et aux mentalités. Il faut quand même prendre la mesure de cette hécatombe qui a été une hécatombe massive. Elle arrive en 1347 en Europe. Elle débarque en Europe au sens propre du terme puisqu'elle est arrivée sur des galères génoises et elle va semer la mort pendant 6 ans, hein, jusqu'en 1352. Alors, il y a eu une hypothèse, les troupes de la Horde d'Or qui a assiégé un comptoir génois à Kaffa, en Crimée, auraient catapulté des cadavres de pestiférés de leurs propres troupes par-dessus les murs de la cité. C'était les prémices de la guerre bactériologique. Bon, c'est une hypothèse qui est contestée par d'autres historiens qui pensent que c'est beaucoup plus la circulation des rats, hein, puisque ça se transmet par la puce des rats, la circulation des rats, des troupes de la Horde d'Or jusqu'à l'intérieur de la cité qui auraient provoqué donc cette contagion. En tout cas, tout le monde est d'accord et tous les historiens sont d'accord pour dire que cette épidémie est partie de la basse Volga et de l'embouchure du Don, hein, donc cette région qui était dominée par cette fameuse Horde d'Or. Elle est donc partie de la mer Noire. Elle a passé les détroits, le Bosphore, elle a gagné la Méditerranée, et de là, elle a frappé l'Europe très lourdement, hein, on va y revenir, mais aussi l'Asie, l'Afrique du Nord, ça on en a des preuves irréfutables, et peut-être l'Afrique subsaharienne, dont on connaît moins bien l'histoire. Pour vous donner une idée, j'ai dit le tiers de la population européenne. À Florence, l'épidémie aurait tué entre 50 et 80 000 personnes. Entre 50 et 80 000 personnes. À Venise, les 3/5 de la population auraient été décimés. À Brême, en Allemagne, 70% de la population serait mort de la peste. à Toulouse, la population serait passée de 30 000 à 20 000 habitants. À Arras, de 20 000 à 10 000 habitants. À Paris, la population de Paris était estimée à 4, en fourchette entre 80 000, 100 000 et 200 000 habitants. On ne peut même pas prendre la mesure de l'hécatombe, faute de données fiables. Donc, si vous voulez, et les villes ont été touchées, les campagnes aussi. Il y a un exemple célèbre, c'est un village de Bourgogne, Givry, qui comptait 1500 habitants à peu près avant la peste. 643 sont morts de la peste. Je veux dire, plus de 40%, 43% de la population est morte de la peste. On a des descriptions absolument apocalyptiques, et en particulier dans le Décaméron de Boccace. Je vous lis cet extrait de l'introduction du Décaméron. Il advint parfois qu'un même cercueil contenait soit la femme et le mari, soit deux ou trois frères, soit le père et l'enfant, ou tel parent. Et là où les prêtres ne croyaient avoir qu'un mort à ensevelir, ils en trouvaient 6, 8 et parfois davantage. Donc ça donne une idée de cette hécatombe. Cette hécatombe a aussi donné lieu à une iconographie que vous avez sans doute rencontré, où on voit s'accumuler les cercueils, où on voit s'accumuler les cadavres, et on a une idée donc du chaos que cela a pu provoquer. Ce chaos, il se mesure aussi à des tas d'autres indices. Si vous voulez, la peste, on la lit à travers un certain nombre de traces. D'abord, des champs qui ont été abandonnés et qui sont revenus aux friches. Le Quercy, par exemple, a été littéralement déserté et il a fallu que des paysans descendent du Cantal ou du Rouergue ou de Corrèze pour repeupler le Quercy après la peste. Les prix des denrées alimentaires se sont mis à flamber et donc un autre fléau s'est greffé sur la peste, qui est la famine et les disettes. Les salaires, faute de main-d'œuvre, se sont mis à grimper en flèche et ont provoqué aussi des difficultés économiques considérables. Les chantiers des cathédrales se sont arrêtés. Par exemple, la cathédrale de Sienne, le chantier s'est arrêté brutalement en 1747. Dans cette même ville, le gouvernement de Sienne, du jour au lendemain, tombe de 9 à 4 membres qui ne peuvent pas être renouvelés, faute de personnes qui pouvaient occuper. Ça donne ça aussi une idée de la désorganisation de toutes les administrations urbaines, étatiques, ecclésiastique, et y compris de la papauté qui était à l'époque à Avignon, du fait donc de la peste. Tout ça a aussi provoqué des tensions dans les villes et dans les campagnes. Des jacqueries, les fameuses jacqueries, révoltes à Paris qui vont aboutir sur la mort du prévôt des marchands Étienne Marcel. Tout ça, c'est dans le sillage donc de la grande peste. Ce fut le temps, ce chaos est aussi le règne de la panique, de l'irrationnel et du désarroi. La peste, elle est perçue comme une punition divine. Des astrologues, des prophètes de l'Apocalypse clament des inepties, tandis que des charlatans proposent des remèdes complètement farfelus. La médecine elle-même reste enfermée dans un mélange de rationalité, d'astrologie et de croyance. Les médecins essaient de comprendre. Certains pensent que ça se transmet par des miasmes qui sont dans l'air. Et pour se prémunir de ces miasmes, il faut, par exemple, porter des espèces de grands becs. Vous avez vu ces images qu'on remplit d'aromates divers en disant ça va purifier l'air donc de ces miasmes. D'autres, déjà, ont le pressentiment ou une perception instinctive d'une transmission par le contact. Aux ARS donc s'opposent des contagionnistes, mais ils n'ont aucune preuve scientifique que ça se transmet donc par le contact. Il faudra attendre beaucoup plus tard, bien sûr, la révolution pasteurienne pour que cette contagion soit prouvée scientifiquement avec les découvertes de Pasteur. Et puis en ce qui concerne d'autres épidémies, le choléra par exemple, dont on parlera, celle de Koch, de l'allemand Koch, ou Koch comme on dit en France, pour qu'on découvre un vaccin, Alexandre Yersin, pour qu'on établisse que c'est la puce du rat Hein, ça, c'est en 1898. Un autre pasteurien, Paul-Louis Simon, qui établit que c'est la puce du rat qui transmet ce bacille. Et un demi-siècle plus tard, attendre des antibiotiques pour qu'on comprenne vraiment et qu'on arrive à lutter contre ce mécanisme. Alors, au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on fait ? On organise des processions. Vous me direz que masser des populations dans des processions, ce n'est pas le meilleur moyen d'éviter la contagion. Et bien entendu, ces processions sont des remèdes pires que le mal. Autre exemple, des processions de flagellants. Hein. Puisque c'est une punition divine, il faut se flageller avec des lanières de cuir acérées, avec des bouts de ferraille, pour que cette punition amène à la miséricorde de Dieu et que cette horreur se termine. C'est aussi le règne de la rumeur, ce qu'on appellerait aujourd'hui les fake news, le règne du complotisme, ce qu'on appelle aujourd'hui le complotisme. Les premiers accusés sont les juifs, hein, des juifs qu'on accuse d'empoisonner les puits. Et ça va déboucher dans un certain nombre de villes, tout particulièrement dans la vallée du Rhin, mais aussi ailleurs, à Bâle, à Fribourg, à Erfurt et à Strasbourg, à de véritables pogroms, à des massacres. À Strasbourg, la moitié de la population juive est massacrée au moment de la Grande Peste. Il y a d'autres boucs émissaires accusés aussi d'empoisonner les puits, d'empoisonner l'âge, etc. Ce sont les lépreux. Hein, autre grande maladie donc, du Moyen-Âge, et on a assisté aussi à ce moment-là à des massacres de lépreux. La suspension des œuvres, pour dire, bon, à quelque chose, malheur a été bon, ça a mis fin à la guerre de Cent Ans, faute de combattants. Non, ça a été un malheur supplémentaire parce que ces guerriers démobilisés, n'ayant plus de salaire, se sont mis à rançonner les campagnes et ça a été un fléau supplémentaire. Hein. La peste, la famine et la guerre, les trois fléaux, donc, se sont cumulés. Certains se sont réfugiés dans la débauche. Les jeunes gens que décrit Boccace dans le Décaméron fuient la peste de Florence et se réfugient dans cette débauche. Alors, on a évidemment la description de Boccace. On a aussi une description d'un chroniqueur florentin qui s'appelle Matteo Villani. Je vais vous la lire très rapidement, enfin quelques lignes. « Ils s'adonnèrent à une vie plus honteuse et plus désordonnée qu'avant. Ils s'abandonnèrent aux fêtes des tavernes, aux jeux de hasard et à une luxure débridée et inventèrent des modes vestimentaires indécentes comme des robes maintenant les seins si hauts qu'on aurait pu y faire tenir une bougie. » Tout à l'avenant, si vous voulez. Hein. Donc, une débauche, finalement, qui dit bah, « Puisque de toute façon, on va mourir, profitons-en avant de mourir. » Alors, vous avez une idée donc, de ce chaos qui a été semé par la peste. Et pourtant, ce qui est surprenant, et là je cite un professeur au Collège de France qui m'a fait l'honneur de préfacer mon dernier livre, qui s'appelle « Patrick Boucheron ». C'est pas un livre hein, sur les pandémies. J'en parle entre autres, mais c'est un livre sur l'histoire de l'Europe. Patrick Boucheron a eu cette phrase. Ce qui est le plus surprenant pour l'historien, c'est que la vie a repris comme avant. Quand la pandémie s'est terminée, la vie a repris comme avant. Quelques exemples. Une ville comme Venise s'est repeuplée grâce à un afflux de ruraux venus des campagnes environnantes ou de marins qui venaient de la côte d'Almate tout proche, où d'ailleurs Venise était implantée, ou qui venaient de Grèce. Les terres du Quercy, je vous l'ai dit tout à l'heure, désertées, ont été repeuplées par des Cantaliens, par des Corréziens et par des Rouergas qui sont descendus vers ces terres chaudes pour reprendre des terrains qui étaient à prendre parce qu'ils étaient déserts. Autre exemple que cite Boucheron, un notaire d'Apt tenait des registres, comme tous les notaires, et brusquement, en 1348, plus rien. Un blanc jusqu'en 1350, 1351. Rien. Un blanc. Puis l'écriture reprend avec une autre encre et une autre écriture, une écriture différente. Le notaire est vraisemblablement mort et ses commis sont morts. Et ça reprend comme avant. Les affaires reprennent et le registre du notaire reprend. Les structures sociales ont-elles changé ? Certes, la pénurie de main-d'œuvre a amené à un recul du servage dans le royaume de France. Mais le servage n'est pas aboli. Il ne sera aboli en France que par une ordonnance de 1779 au XVIIIe siècle. Donc les structures sociales ne changent pas, les seigneurs restent maîtres des campagnes, les corporations renforcent même leur emprise sur les métiers urbains, les administrations, un temps désorganisées, se réorganisent et se repeuplent avec des nouvelles têtes, et la guerre de Cent Ans, un temps interrompue par la peste, reprend comme si de rien n'était. Hein, je serais presque tenté de dire, au grand soulagement des paysans et de certaines villes qui n'étaient plus rançonnées par ceux qu'on commence à appeler les routiers ou les grandes compagnies. On va apprendre même à vivre avec la peste. On dit beaucoup, il faut apprendre à vivre avec le Covid. Ben, on va apprendre à vivre avec la peste, parce que la peste va faire des récurrences régulières, très meurtrières au XVe siècle, mais elle revient au XVIe, elle revient au XVIIe. La dernière peste noire en Europe est celle de Marseille et de la Provence en 1720-1722. Mais il faut dire, si vous voulez, que... alors, on peut dire, mais oui, alors, il y a quand même une conséquence démographique, c'est que la population n'a pas vraiment cru de nouveau, puisqu'il faut attendre le XVIIe siècle pour que la population française retrouve son niveau d'avant la Grande Peste, hein, à peu près 20 millions de Français. On parle de Louis XIV et 20 millions de Français. On attend donc. Mais la peste, de toute façon, n'est pas responsable de cette stagnation démographique. Ce qui est responsable de la stagnation démographique sont autant les grandes famines et aussi la guerre. Hein, il y avait une prière qui était répétée en boucle dans ces années-là, c'est « Liberanos domine, affamé, peste et bello ». Libérez-nous, Seigneur, de la famine, de la peste et de la guerre. Si elle ne semble finalement pas avoir changé les choses matérielles et si les sociétés se sont reconstruites, il y a une chose qui est frappante, c'est qu'il y a quand même un monde d'après. Et ce monde d'après, si la vie matérielle a pu reprendre comme avant, ce monde d'après, c'est le monde, je dirais, des mentalités. La peste noire a laissé une marque profonde et durable dans les sensibilités et dans les mentalités. Elle a été l'origine d'une grande peur. Hein. Vous connaissez peut-être l'ouvrage de l'historien Jean Delumeau, « La peur en Occident ». Mais la peur, c'est d'abord la peur de la peste. Et ça se traduit dans l'art, ça se traduit dans la littérature. Dans l'art, bon, on voit qu'à partir du XIVe, XVe siècle, la sérénité des gisants sur les tombeaux laisse la place aux transis. Les transis sont des cadavres à l'état de squelette, en décomposition, parfois avec des lambeaux de cheveux. Plus de gisants tranquilles, les mains jointes, mais des transis. C'est aussi l'époque des danses macabres, où on voit des seigneurs, des ecclésiastiques et des manants mêlés dans des danses qui les conduisent tous vers la mort, et où on voit la mort sous la forme d'un squelette avec sa grande faux, hein, la grande faucheuse, comme on disait. C'est aussi l'époque où on voit se développer la représentation des trois morts et des trois vifs. Trois jeunes seigneurs fringants qui croisent qui sont eux sur des beaux chevaux, qui croisent quasiment des squelettes, qui leur disent « Tel je fus comme tu es, et tel que je suis, tu seras ». Hein ? Donc la mort s'impose vraiment comme un thème dominant dans l'art. Elle s'impose aussi dans la littérature. Bon, j'ai cité le Décaméron de Boccace, mais je dirais qu'elle s'impose jusqu'à la peste de Camus au XXe siècle, en passant par La Fontaine, hein, les animaux malades de la peste, qui commence par ce vers, ce mal qui répand la terreur. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très frappant. On retrouve ça dans les pièces de Molière. Hein. La peste soit de l'avarice et des avaricieux, l'avare. Peste soit le coquin de battre ainsi sa femme. Ça, c'est dans Le Médecin malgré lui. Peste soit les carognes qui me laissent dans l'inquiétude. Ça, c'est dans Le Mariage forcé. Des expressions familières, encore en usage aujourd'hui, témoignent de cette empreinte terrifiante. Craindre comme la peste, fuir comme la peste, que la peste l'emporte. On emploie encore ces expressions de nos jours. Elle a laissé une trace dans la culture populaire. Un des cultes les plus populaires aujourd'hui, c'est encore aujourd'hui, et on voit cette statue dans quasiment toutes les églises, c'est le culte de Saint Roch, le saint guérisseur de la peste. Et je me suis amusé à taper sur Internet « Saint Roch et coronavirus ». J'avais 20 pages avec des prières à Saint-Roch contre le coronavirus de Wuhan. Hein. Vous avez encore dans des régions des chansons encore chantées, comme dans la région de Quimper, la peste des lions en Bretagne. Ça fait partie du folklore traditionnel breton. Donc, voyez, peut-être que là, c'est sur le plan mental que les sociétés ont le plus de mal à sortir d'une pandémie. Elles en sortent matériellement, elles arrivent à récupérer, mais mentalement, c'est beaucoup plus difficile. Alors, il y a une autre expression populaire encore aujourd'hui, qui est utilisée couramment, choisir entre le peste et le choléra, qui me mène maintenant à vous parler d'une autre grande peur, qui est aussi à l'origine d'une autre expression familière, la peur bleue. De la couleur des morts du choléra ou des mourants du choléra qui avaient un aspect cyanosé, victime donc de diarrhée infernale et de déshydratation et qui mouraient tout bleu. Donc j'en arrive au deuxième exemple, le choléra de la peur bleue à la révolution pasteurienne. Alors ce choléra qu'on appelait au 19e le choléra morbus, le choléra donc mortel associé à la mort. C'est une maladie foudroyante donc, qui se traduisait par des diarrhées aiguës, des vomissements et qui, on le sait, se transmettait par l'eau contaminée par les excréments humains. Hein. C'est comme ça donc se transmettait le choléra. Ces progrès donc, ont été, comme la peste, véhiculés par des bateaux, véhiculés par des navires. Et comme la peste, c'est une pandémie qui est venue d'Asie, la plus précisément du Bengale, très précisément en 1817, très précisément, alors ça c'est une autre histoire que je raconte dans un livre que je suis en train d'écrire, c'est un des chapitres, lié à une éruption catastrophique qui a provoqué un hiver volcanique, l'éruption du Tambora, qui a perturbé le cycle de la mousson dans le détroit du Bengale, et donc le choléra, le vibrion colérique a connu une mutation, il est devenu beaucoup plus virulent et il a été à l'origine de 6 pandémies qui ont ravagé donc, le 19e siècle jusqu'aux années 1890. Et il existe encore dans certaines régions donc, du monde qui ont difficilement accès aux vaccins, difficilement accès aux antibiotiques. Vous avez entendu parler du choléra en Haïti, par exemple. Mais au 19e, il a semé la peur en Europe et tout particulièrement deux épidémies qui ont été terribles et qui ont touché la France très durement. En 1832, 100 000 morts en France, plus de 20 000 morts à Paris. En 1849, à nouveau 100 000 morts en France. Et en 1852-53, où il y a eu 150 000 morts en France. Londres a été aussi ravagé par le choléra, on y reviendra. Alors je ne vais pas détailler toutes ces pandémies, mais elles ont marqué les esprits jusqu'à la fin du 19e, et vous verrez que ça a eu des conséquences aussi culturelles dans la littérature. Ces pandémies, elles ont confirmé finalement une unification microbienne qu'on avait déjà pu constater avec la peste noire, et qu'on a constaté aussi, parce qu'il faut élargir un petit peu nos horizons, qu'on a constaté avec le choc microbien qui a été la conséquence de la découverte de l'Amérique, puisque ce qui a décimé les populations amérindiennes, ce fut d'abord l'arrivée de microbes en provenance d'Europe qui étaient inconnus de ces populations. Bon, en échange, on a ramené la syphilis, hein, mais cette unification microbienne, c'est quelque chose qui est typique donc de ces pandémies. Elles ont fait des millions de morts en Asie, en Europe, en Afrique, on comprend qu'elles aient provoqué donc en Europe cette peur bleue. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette peur bleue, elle a provoqué, comme la peste noire, des réactions irrationnelles. Certains, comme au temps de la peste noire, certains se plongeaient dans la débauche, et là on a des tas de témoignages, certains essayaient de prendre la chose de façon bravache. Il y avait des buveurs dans les tavernes, et ça les journaux rapportent des exemples, qui trinquaient à la santé du choléra morbus. Il se trouve que quelques semaines après, ils étaient eux-mêmes victimes du choléra. Mais cet irrationnel, comme au temps de la peste, a débouché sur la violence et sur la chasse à des boucs émissaires. L'allemand Heinrich Heine, le poète allemand Heinrich Heine, qui était à ce moment-là en France, au moment du choléra de 1832, a raconté un ouvrage qui s'appelle « De la France », des massacres par la foule à Paris, dans un Paris frappé par le choléra, de plusieurs passants, généralement des nobles ou des bourgeois, qui étaient accusés d'être des empoisonneurs. Je cite Heine. « Le peuple se précipitait sur eux comme un animal sauvage, comme une troupe d'enragés. Beaucoup se sauvèrent par leur présence d'esprit. Beaucoup furent arrachés du danger par l'intrépidité de la garde municipale. D'autres reçurent des blessures et des contusions dangereuses. 6 hommes furent impitoyablement massacrés. La rumeur d'empoisonnement s'est propagée, d'autant plus qu'il y avait en Paris des convois de victimes tous les jours. » Un autre ouvrage sont les mémoires de la comtesse de Boigne, qui est très intéressant. La comtesse dit dans ses mémoires qu'elle n'arrivait pas à dissuader ses serviteurs de l'idée que la ville était livrée aux empoisonneurs. Ses serviteurs, ils ne voulaient plus sortir parce qu'ils pensaient que la ville était livrée complètement aux empoisonneurs. Il y a même l'idée d'un complot qui est ourdi par le pouvoir. La presse rapporte, comme la Gazette des Tribunaux, les 2 et 3 avril 1832, rapporte qu'on entend très souvent cette phrase dans les quartiers populaires, « Il y a trop de pauvres et on aime mieux nous empoisonner que de nous nourrir. » Donc c'est un complot du pouvoir. La presse, là aussi c'est un autre journal, Le Temps, le 5 avril 1832, qui dit que devant les boutiques de marchands de vin, des attroupements de 30, 40 ou 50 personnes, on entend prononcer chaque minute les mots d'empoisonnement et d'empoisonneur. La presse aussi rapporte des exemples d'attitudes qui débouchent sur des agressions violentes. Regardez un puits. Passer plusieurs fois devant une boutique de marchand de vin, offrir des marrons chauds à une petite mendiante, offrir une boule de gomme à un mendiant, proposer une boisson à un pauvre air, tenir une bouteille, je cite tous ces journaux, tenir une bouteille ou des médicaments, porter des beaux habits, tout ça pouvait déboucher sur la vindicte de la foule, sur des insultes, on crie à la lanterne, le cri qu'on entendait sous la Révolution, et l'hostilité verbale peut déboucher sur l'hostilité physique. Dans un tel contexte de tension sociale, on comprend qu'il y ait pu y avoir un échauffement des esprits et qu'il y ait pu y avoir des émeutes en 1832. Deux exemples. Dans le Paris de 1832, ravagé par le choléra, le président du Conseil, Casimir Perier, rend visite à des pestiférés, à des colériques, à l'Hôtel Dieu. Il est contaminé et il va mourir lui-même du choléra. Une autre célébrité, chère aux républicains, le général Lamarque, est contaminé lui aussi par le choléra et meurt. On organise ses obsèques. Plus de 100 000 personnes suivent le corbillard et suivent ses obsèques. Et les obsèques dégénèrent en émeutes qui vont être sauvagement réprimées par la troupe. C'est là la scène des Misérables, la mort de Gavroche, la liberté guidant le peuple, tout ça, ce sont les émeutes, on connaît les Trois Glorieuses de 1830, mais là ce sont les émeutes de 1832, les émeutes républicaines de 1832, dans un Paris où les esprits donc s'échauffaient. Même chose à Londres. La population ouvrière se sent particulièrement touchée par le choléra. Elle est déçue parce qu'il y a une réforme électorale en 1832 qui ne lui accorde pas le droit de vote. Là-dessus, il y a des lois qu'on appelle les pour-l'eau qui décident de l'enfermement des pauvres. Hein. Vous connaissez le roman Oliver Twist de Dickens, qui vont aussi faire monter la tension. Et tout ça va déboucher sur une agitation et ce qu'on appelle en Angleterre le mouvement chartiste. Donc vous voyez, il y a des conséquences politiques de tout ça. Mais le fait que cette pandémie va se répéter et va devenir récurrente fait qu'il a fallu apprendre à vivre aussi avec le choléra comme on a appris à vivre avec la peste. Et la seule façon de s'en prémunir, c'est l'hygiène. Alors, Là, aussi bien les aéristes, parce qu'il y a toujours des aéristes et des contagionnistes empiriques, hein. Ils n'ont aucune idée de ce que peut être la contagion microbienne, puisqu'il a fallu attendre Pasteur et Koch pour qu'on ait une idée précise, scientifiquement, de ce qu'était la contagion microbienne. Ils sont d'accord sur une chose. Il faut, pour les aéristes, aérer, et pour les contagionnistes, la propreté. Et ils se rejoignent donc sur cet objectif, et on s'aperçoit que ça va déboucher, dès les années 1830, c'est-à-dire après la grande vague de choléra de 1832 qui a touché Paris et Londres, sur un progrès de ce qu'on appelle l'hygiénisme, qui était apparu déjà au 18e, puisqu'il y avait déjà des aéristes et des contagionnistes. Le 18e, une historienne a pu l'appeler la naissance de l'intime. C'est Annick Pardaillé-Galabrun, parle de la naissance de l'intime. Évidemment, dans les classes aisées, hein, où on a les moyens de cette intimité, mais où apparaissent les cabinets de toilette, les vertus de l'eau. C'est aussi l'époque d'un urbanisme qui veut aérer. On fait des grandes places. Exemple à Paris, la place Louis XV, place de la Concorde, qui deviendra sous la Révolution la place de la Concorde. Il faut aérer la ville, hein, avec la grande promenade donc des Champs-Élysées qui prolonge la place de la Concorde. On recherche donc cette salubrité, et au XVIIIe siècle aussi, perception empirique des bienfaits du vaccin avec la vaccine, hein, ce vaccin contre la variole, qui est mis au point à la fin du XVIIIe par Édouard Jenner, de façon totalement empirique. Là encore, sans aucune idée de ce qu'était la contagion microbienne. Mais ce sont vraiment les ravages du choléra qui ont impulsé l'hygiénisme. D'autant plus que, en 1855, un Britannique qui s'appelle John Snow a prouvé scientifiquement, là encore, on n'a pas idée de la contagion microbienne, mais que c'était de l'eau, par l'eau, que se transmettait le choléra. Hein, en 1854. Alors, il y avait un Italien qui s'appelait Pacini qui, dès 1854, avait l'idée que dans cette eau, il devait y avoir quelque animalcule qui pouvait être le vecteur de l'épidémie. Mais ça n'est pas encore prouvé scientifiquement. C'est Koch, hein, qui découvrira donc le bacille, hein, le vibrion, en 1883. Mais on retrouve le même réflexe. C'est l'eau et l'urbanisme. Alors, on parle bien sûr beaucoup des travaux de Haussmann. Mais avant Haussmann, il y a eu un précurseur qui était le préfet de la Seine, Rambuteau, qui a ouvert une grande percée dans Paris, une percée pré-haussmannienne, moins large bien sûr que les avenues Haussmann, mais beaucoup plus large. Il a déjà ouvert le vieux tissu médiéval de Paris avec cette rue Rambuteau. Il a aussi multiplié les bornes fontaines, hein, ces bornes en fonte, qu'on voit encore souvent dans les parcs de Paris. Hein, c'est Rambuteau qui a fait ça. Après le choléra donc de 1832. Et après les choléras de 1849 et 1853, c'est Haussmann qui va donner une beaucoup plus grande ampleur à cette politique. Alors on a beaucoup dit que Haussmann avait fait ses grands travaux pour qu'on puisse tirer au canon et lutter contre les émeutes urbaines. En fait, l'idée de Haussmann, c'est il faut que l'air circule, il faut que la circulation soit facilitée dans Paris, il faut assainir Paris, d'où ces grandes percées qui vont éventrer Paris, transformer le visage de Paris, aérer Paris, et puis aussi ce qui se passe sous terre. Assainir, c'est le réseau d'égouts par un ingénieur qui s'appelle Belgrand. Ce sont les ingénieurs, hein, qui travaillent pour Haussmann, qui vont aussi être les auteurs de cette transformation. Belgrand conçoit aussi deux réseaux d'adduction d'eau différentes. Un réseau d'eau potable pour apporter l'eau courante à tous les étages et un réseau d'eau non potable qui va servir à nettoyer les rues. Hein. Cet apport de l'eau potable et de l'eau courante va mettre au chômage les porteurs d'eau qui allaient puiser l'eau dans la Seine, qui vont beaucoup parmi eux étaient auvergnats, ils vont se reconvertir, puisqu'on ne peut plus porter de l'eau dans les appartements, ben on va vendre du vin et du charbon, c'est l'origine des bougnats auvergnats, corréziens et rouergats, des carbougnats. Il y a du charbon, c'était le cri qu'ils poussaient en poussant leur carriole donc de charbon dans les rues de Paris. Donc Haussmann va complètement bouleverser le visage de Paris, bouleverser aussi en créant des espaces verts. C'est un autre ingénieur qui s'appelle Alphand, qui va créer, multiplier les squares, créer des parcs, le parc Monceau, le parc Montsouris, les buts de Chaumont, et aux portes de Paris, aménager les grandes forêts, Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, tout ça, donc, c'est l'œuvre d'Haussmann. C'est aussi dans ces années, que les années 1850, que va se tenir la première conférence sanitaire internationale à Paris en 1851. Donc, on voit se mettre en place une véritable politique d'assainissement urbain, mais aussi se mettre en place une politique du logement. Au Royaume-Uni, on est très conscient que les taudis dans lesquels vivent les populations ouvrières sont des lieux où vont se répandre les épidémies, donc il faut les assainir. Il y a un public health movement qui va se créer et l'un de ses réformateurs, Edwin Chadwick, va s'attaquer à cette question et va faire des pressions qui vont déboucher sur une première loi en Grande-Bretagne dans les années 1830 pour améliorer les conditions de logement donc des ouvriers. En France, c'est un médecin qui s'appelait Louis-René Villermé qui, après le choléra de 1832, va écrire un ouvrage très renseigné avec des statistiques très précises. Ce livre s'appelle « Le choléra » dans les maisons garnies de Paris, où il va dénoncer aussi ses conditions de logement. Villermé va s'intéresser aussi aux conditions de vie des ouvriers dans les usines. Et tout ça sera repris par cette conférence sanitaire internationale de 1851 à Paris. Donc il y a vraiment un mouvement très net qui se met en place et qui va s'attaquer aussi à d'autres fléaux endémiques, pas seulement le choléra, mais aussi la syphilis, la tuberculose et l'alcoolisme qui font des ravages particulièrement dans la population ouvrière. Alors il y a une autre mesure qui est une mesure très ancienne qui remonte à la peste, qui était l'isolement. Les contagionnistes au départ, pour eux, la seule solution c'était d'isoler les malades, les enfermer, les mettre à l'écart. Et c'était à l'origine au XVIIe siècle, de ce qu'on appelait les quarantaines. Et en particulier dans les ports. Quand un navire arrivait, s'il y avait des malades à bord, toute l'équipage et les passagers étaient enfermés dans ce qu'on appelait des lazarets, et ils y restaient pour 40 jours. Alors, au XIXe, et particulièrement en Grande-Bretagne, c'est l'idéologie libre-échangiste. Il ne faut pas d'entrave à la liberté de circulation, donc la quarantaine a mauvaise presse. Et les Anglais vont être très influents lors de la conférence de 1851 pour recommander finalement d'assouplir les quarantaines au nom de la liberté de circulation. Mais la donne va changer avec une terrible épidémie de choléra en 1865, lors du pèlerinage de la Mecque, qui va décimer les pèlerins, un véritable ravage et qui va réveiller une grande peur donc en Europe. Et là, l'idée a été, plutôt que d'attendre que les navires arrivent du Moyen-Orient porteurs du choléra, on va mettre tout en place, tout un réseau, avec des lazarets et des quarantaines le long de la mer Rouge, d'autant plus qu'à partir de 1869, il y a le canal de Suez. Et donc, c'est le grand axe de circulation. Donc, on va créer des avant-postes de surveillance avec tout ce réseau de lazarets qui sont implantés le long de la mer Rouge et certains même donc dans l'océan Indien et bien sûr également dans des îles méditerranéennes pour arrêter le choléra avant qu'il n'arrive en Europe. Voilà. Et ce dispositif donc de surveillance va être d'autant plus renforcé qu'en 1883, c'est lors d'une mission en Égypte que Koch découvre le vibrion colérique, hein, le bacille, donc responsable de l'épidémie. Et donc là, on a la preuve, hein, Pasteur aussi avait prouvé que c'était l'infection microbienne, mais là, en isolant très précisément le vibrion colérique, on a la preuve donc que ça vient de là. Et donc, à la suite, le premier vaccin contre le choléra sera mis au point par un Russe qui s'appelait Valdemar Avkin, qui était un disciple de Pasteur. Il l'a mis au point en 1892, et ensuite, à partir d'un demi-siècle plus tard, plus d'un demi-siècle plus tard, les antibiotiques permettront de vaincre, lorsqu'on les a à disposition, malheureusement dans certaines régions du monde c'est encore difficile, de mettre un terme donc à cette épidémie. Mais l'épidémie de choléra va aussi avoir à impulser des politiques de santé publique, mais va aussi déboucher sur des politiques internationales de santé publique. On n'a pas encore l'OMS, il faudra attendre pour qu'il y ait une organisation d'hygiène internationale, la SDN, mais il y a quand même une préfiguration avec un office international d'hygiène publique dont le siège est établi à Paris et qui est créé en 1907. Hein. Donc ça, c'est tout à fait lié donc au choléra. Cette révolution pasteurienne, donc, finalement, est l'aboutissement de ces pandémies de choléra. Alors, si on fait un bilan des pandémies de choléra du 19e, sur le plan démographique, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas eu un impact considérable, tout au moins en Europe. Parce que la population européenne est passée de 190 millions à peu près en 1800 à 400 millions en 1914, à la veille de 1914. Sans compter les 60 millions d'Européens qui se sont expatriés et qui sont allés particulièrement aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine, au Brésil, etc. Donc les pandémies de choléra n'ont pas empêché non seulement une reconstruction démographique, mais même une formidable expansion démographique européenne qui a nourri une émigration européenne. Hein, parce que l'Europe aujourd'hui accueille refuse d'accueillir des émigrés, mais l'Europe a été une grande terre d'émigration au XIXe siècle. Les conséquences économiques, ben, même chose. Le ralentissement qui aurait été induit par les pandémies, évidemment, la pandémie de choléra à Paris, elle a créé une crise économique assez rapidement surmontée, même très rapidement surmontée, puisque le 19e a été un siècle d'expansion économique. C'est la fin des crises démographiques d'Ancien Régime. En France, 1847. En Irlande, la famine de la pomme de terre en 1846. La reconstruction économique, c'est plus qu'une reconstruction aussi, c'est une expansion. C'est aussi le siècle donc de la révolution industrielle. Mais le choléra, comme la peste, elle a marqué les imaginaires. Hein. Choisir entre la peste et le choléra, je vous l'ai déjà dit, c'est une expression qui apparaît dans le dictionnaire de Littré en 1882. Et ces générations qui sont nées au moment des dernières pandémies européennes de choléra, dans les années 70-90, ont été tellement marquées que deux écrivains, notamment Junot, qui est né en 1995, a écrit Le Hussard sur le toit, où il raconte le choléra en Provence, et Thomas Mann, mort à Venise, où il raconte le choléra à Venise. Hein. Et Garcia Marquez, lui, a écrit L'amour au temps du choléra, parce que le choléra, il est né en 27, mais le choléra, il a continué à persister en Amérique latine. Voilà. Alors, on pensait cette peur bleue terminée avec la révolution pasteurienne. Elle ressurgit avec la grippe espagnole. Je vais essayer d'être plus rapide, parce que d'abord, elle est plus connue. Je ne répéterai pas les chiffres cataclysmiques hein, que je vous ai donnés en introduction. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne s'attendait pas à ça. On ne s'y attendait pas parce que, avec la révolution pasteurienne, on pensait que le temps, ça rappelle ce qui s'est passé avec le Covid, on pensait que c'était fini tout ça. Et à nouveau, des navires vont ramener la mort. Des navires qui, cette fois, sont américains, puisque ce sont les troupes américaines qui ont ramené donc la grippe espagnole en France. Ces troupes qui avaient été concentrées dans l'urgence dans des camps aux États-Unis où la grippe a commencé à se propager. Et quand ils sont arrivés, ils étaient grippés, ces soldats. Et donc, la contagion a gagné les troupes britanniques, les troupes françaises et aussi les troupes allemandes. Le général Ludendorff a accusé la grippe espagnole d'être responsable de ces échecs des offensives de 1918. Alors, pourquoi on l'a appelée espagnole ? Ben, elle est complètement mal nommée. Pourquoi ? Parce qu'en Espagne, le pays n'était pas en guerre. Donc, on en parlait, sa grippe. Et on en parlait dès le printemps 1918. C'est-à-dire dès avril, quand les soldats américains sont arrivés, ça s'est répandu très très vite, hein, parce que les soldats allaient en permission, parce que il y avait des hôpitaux à l'arrière, etc. Donc elle s'est répandue dans toute l'Europe, et en Espagne on en parlait, puisqu'on parlait moins de la guerre. C'est pas vraiment la censure qui a empêché de parler de la grippe espagnole en France, c'est beaucoup plus la guerre. Vous prenez les journaux, nationaux et locaux, ils parlent pas de la grippe, ils ne parlent quasiment que de la guerre. On l'apprend au départ, on l'apprend à la légère. Ça me rappelle qu'on parlait de la grippette au début également de la pandémie de Covid. On parle de la fièvre de 3 jours. Les journaux disent « Nos soldats, nos poilus, ils résistent ». Ce n'est pas le cas des Boches, hein, parce qu'eux, ils sont décimés. Alors la grippe espagnole, c'est pour les autres, et on parle surtout de son développement à l'étranger. Là où il a fallu commencer à s'en préoccuper, c'est quand est arrivée la deuxième vague, à l'automne. Alors là, ça a été terrible, la mort a frappé, et c'est là que la presse a été obligée d'en parler, qu'on a multiplié les recommandations. Porter le masque, les gestes barrières, on dirait aujourd'hui. Mais dans le désordre, ça a été le désarroi le plus total. On n'avait pas, bien sûr, de vaccin, puisque le vaccin, premier vaccin contre la grippe, il date de la Seconde Guerre mondiale. Le virus n'a été isolé que dans les années 30. Ils auraient bien aimé avoir des vaccins. Les remèdes les plus fantaisistes étaient vantés, des remèdes contre la toux, etc., permettait de guérir la grippe espagnole. On a vu également la théorie du complot. Ce sont les Boches qui ont contaminé des conserves espagnoles qu'on donne à manger à nos soldats et qu'on donne à manger à nos civils. Donc c'est la faute des Boches, etc. etc. Et on vantait aussi les vertus du vin et de l'alcool. On se rue sur le rhum, qui n'est plus, au bout d'un certain temps, dispensé que sur ordonnance dans les pharmacies. Nos grands-mères, chaque fois qu'on avait un coup de froid, leur premier réflexe, c'était le grog ou le lait de poule. Hein. Certains médecins disent non, quand même, l'alcool, c'est pas ça. Ils se font tomber dessus par les députés des départements viticoles qui disent si, le vin, c'est bien, l'alcool, c'est bien pour lutter. Et cette pandémie, finalement, elle a été éclipsée. Elle a été éclipsée pour 3 raisons. La première raison sont les morts de la Grande Guerre qui ont éclipsé les victimes de la grippe. Hein ? On a beaucoup célébré les morts de la Grande Guerre alors que les victimes de la grippe étaient enfermées dans des deuils familiaux et intimes. La deuxième raison, c'est qu'il y a eu ensuite une reconstitution très rapide des sociétés, les années folles, un retour à l'insouciance. Après, il y a eu des drames terribles, la crise de 29, la guerre. Après, il y a eu l'optimisme de l'après Seconde Guerre mondiale, le welfare state, etc. Et tout ça a fait que la grippe espagnole est passée à la trappe. Et elle n'est revenue que très progressivement. Il y a eu quelques alertes, grippe asiatique dans les années 60, grippe asiatique, grippe de Hong Kong. Début du XXe siècle, on commence à s'inquiéter. Hein. Madame Bachelot était ministre de la Santé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la grippe de 2009 et des premiers vaccinodromes qui avaient été mis en place à ce moment-là, parce que c'était le H1N1, le virus de la grippe espagnole, hein, la grippe de 2009. Mais c'est surtout, bien sûr, l'épidémie de Covid, le centenaire, oui, qui l'a fait revenir, mais surtout l'épidémie de Covid qui fait qu'on en a reparlé. Voilà. Et donc, cette peur est revenue. Et ça sera, si vous voulez, mon mot de conclusion. Moi, je pense que les sociétés se sont surtout marquées dans les mentalités. La vie matérielle reprendra. Est-ce que les structures vont changer ? On ne peut pas être prophète et dire ce que sera l'après-Covid, mais en tout cas, je pense qu'il y a toute une société qui a été marquée par cette pandémie, comme ont été marquées les sociétés précédentes. Voilà. Merci beaucoup.
Donc, pour la sortie, par la salle au fond, s'il vous plaît. Nous vous rappelons que pour des raisons de sécurité, la salle doit entièrement être vidée entre chaque rencontre. Merci.